Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de venir en ce début de soirée au sec avec nous, puisque dehors il pleut encore, je crois, à cette rencontre qui a été intitulée Intelligence artificielle et littérature, regard croisé entre Nathalie Azoulay qui s'est posée à ma droite et Émilien de Reclène qui s'est posé à sa droite. Nous avons un primo-romancier et une romancière déjà installée, connue et primée en l'occurrence. Ce sujet ne tombe pas par hasard comme beaucoup de sujets, mais il est particulièrement bienvenu en ces semaines où ces questions justement d'intelligence artificielle par ChatGPT, réseaux sociaux, de sites de rencontres devenus applications de rencontres, de tout ce qui est choses qui émergent aussi du dark web. Hein, on a parlé depuis 10 jours, et par la question des puces de lit ou par la question d'interventionnisme russe dans les élections, dans les processus démocratiques occidentaux, on a parlé beaucoup de ces choses justement qui concernent aussi d'une façon ou d'une autre l'intelligence artificielle, mais pas la littérature. On va voir comment justement la littérature peut faire fiction et peut faire préoccupation et peut faire universalité justement de ça, parce que entre maintenant et les 3-4 prochaines années, ce sont des sujets qui vont aussi nous mobiliser. N'oublions pas que nous sommes dans une année très très électorale. Les plus grands pays du monde vont voter. L'Inde va voter cette année. La Russie va voter cette année. Là, on connaît à peu près le vainqueur, mais on ne connaît pas le chiffre. Les USA vont voter aussi. Et de ces élections, les choses dont nous allons parler vont aussi, tragiquement, assurément, avoir leur mot à dire. On va essayer justement aussi, nous, de faire dire le mot à la littérature. À ma droite, donc, Nathalie Azoulay, vous venez nous voir pour votre tout nouveau roman paru en ce mois de janvier qui s'appelle Python. Python, ça existe. C'est un code qui existe, c'est un code de programme informatique, justement, qui existe. Et vous imaginez une autrice, c'est à moitié une autofiction, votre livre, qui va justement à l'intérieur un peu de la psyché, quelque part, de ce code-là et des personnes qui codent, puisque c'est quelqu'un qui écrit en code Python, ça s'appelle quelqu'un qui code. Vous êtes lauréat du prix Médicis en 2015 pour votre roman Titus n'aimait pas Bérénice, et vous êtes, si je ne me trompe, actuellement aussi une des jurées du prix Femina. À votre droite, donc, le primo-romancier Émilien de Reclène, vous êtes, nous disent vos biographies officielles, docteur en philosophie, épistémologie et histoire des sciences, et c'est quand même sur quelque chose d'assez différent que porte votre premier roman qui s'appelle La mécanique papillonne, qui lui aussi est paru en ce mois de janvier 2024 aux éditions Alia, et qui lui pour le coup est une fiction sur la mise en gestation d'une application de rencontre. D'ailleurs, je vais commencer par vous, Émilien de Reclène, sans que vous y voyez un manque de galanterie de ma part, Nathalie Azoulay. Justement, cette question l'application de rencontre, puisque vous imaginez, assurément en France, même si c'est pas dit, une firme qui va conceptualiser une nouvelle application de rencontre, et vous y mettez les schémas mathématiques, informatiques, et puis vous imaginez quand même qu'il y a une vraie histoire d'amour au sein de cette société. Mais cette thématique justement de l'application de dating, l'application de rencontre, aussi quelque part les réseaux sociaux, est-ce que c'est venu d'une peur, d'une urgence, d'une pratique assidue de votre part ?
C'est surtout venu d'une expérience professionnelle, au sens où, dans le cadre de ma thèse, j'ai été aussi intégré à un projet de développement d'applications de rencontres. Donc il y a une dimension un peu documentaire, si vous voulez, dans ce... Alors, vous parlez de conceptualisation, et effectivement, c'est ça qui m'intéressait, c'est de voir comment un processus de conceptualisation est toujours en même temps un mélange entre le délire et le désir, et un lieu dans lequel s'expriment aussi bien des fantasmes que qu'un rapport très, très concret à des dépits amoureux, à des histoires d'amour qui voudraient se réparer à travers l'intelligence artificielle, et peut-être des réparations qui voudraient s'universaliser à travers la technologie, sans toujours questionner finalement les enjeux de cela, quoi.
Et chez vous, Nathalie Azoulay, comment est-ce que vous êtes venue C'est pas la première fois que vous confrontez différents mondes. Votre roman précédent confrontait, si je me rappelle bien, la littérature et la science. Là, c'est des personnages, mais aussi des langues, hein, que vous faites mettre en miroir. Pareil, est-ce que c'est né d'une peur, d'une obsession, d'une peur citoyenne, d'une peur artistique ?
Pas du tout d'une peur. Non, pas du tout d'une peur, en fait. C'est né d'une espèce de fascination et de volonté de comprendre ce que c'était que ces mondes souterrains, qui ne sont pas du tout souterrains, mais que je me représentais comme des mondes souterrains, où de jeunes gens, puisque c'est quand même la plupart du temps des jeunes gens, et en particulier des jeunes garçons, se mettent à donner des instructions à des machines, et ces machines sont celles avec lesquelles nous vivons et sans lesquelles nous ne pouvons plus vivre. Et donc, dès lors que j'ai un peu regardé de ce côté-là, je me suis dit, mais en fait, évidemment, avant, il y a eu d'autres techniques qui ont révolutionné le monde, et les écrivains auraient pu s'y intéresser, d'ailleurs, certains l'ont fait. Mais cette technique-là, cette technologie-là, elle a pour caractéristique d'être langagière. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des circuits électroniques, etc. C'est donner des instructions à des machines via des signes qui sont les mêmes signes avec lesquels nous nous écrivons. Et donc, quand j'ai pris conscience que le code, c'était un rempart de langage entre les hommes et les machines, et plus qu'un rempart, un pont, je me suis dit, mais j'ai envie de comprendre en fait comment ça marche. Et avant même de parler d'intelligence artificielle, il y a toute cette histoire de l'informatique et des langages informatiques qui précèdent et qui me semble être important de regarder, non pas de comprendre parce que c'est complexe, mais en tout cas d'entrevoir, de sentir, de renifler un petit peu.
Il m'a semblé à la lecture de Python, qui encore une fois est un roman sur une langue, et en l'occurrence sur un code, comme vous disiez, sur un rempart, qu'il fallait justement vous, quelque part, mettre votre personnage, qui est une romancière, hein, dans l'inconscient un peu d'une langue, dans le corps d'une langue. Est-ce que je fais fausse route si je dis ça, ou est-ce que c'était ça le but de départ? En tout cas, c'est le truc d'arrivée, mais...
Vous le formulez plus clairement que je ne me le suis formulé, mais c'est vrai que cette narratrice me ressemble, donc elle a à peu près mon profil, donc elle n'y comprend rien et elle n'y connaît rien, et elle arrive là-dedans via des jeunes corps de garçons qui vont être un peu les vecteurs de tout ça et qui vont lui donner envie de comprendre certes la partie intellectuelle de tout ça, mais aussi la partie humaine, c'est-à-dire que ce sont des jeunes hommes qui font ça jour et nuit, pour caricaturer un petit peu, et elle se demande pourquoi il y a une telle passion en fait pour ces langages et pour cette activité. Et ce que sont que ces humanités, c'est-à-dire ces corps humains, devant les machines qui y passent tout leur temps, qui y passent toute leur vie et qui semblent aimantés à ces actions. Et donc, quand vous parlez d'inconscient, je ne sais pas, mais en tout cas, elle veut rentrer dans l'esprit de ces jeunes codeurs, essayer de comprendre comment ils réfléchissent, ce qui les anime, ce qui peut-être les empêche de faire autre chose, et ce vers quoi ils vont, en fait, à quoi ils aspirent. Donc il y a des parcours biographiques à l'intérieur de cet apprentissage, et puis des rencontres de codeurs qui vont à chaque fois lui donner un peu plus d'éléments sur ce type de jeunes personnes.
Alors, aux codeurs de votre roman répondent les concepteurs et conceptrices aussi de la firme Kay & Co, puisque c'est comme ça que s'appelle dans votre livre Émilien de Reclaine la firme, dont le patron, dont il nous est dit assez tôt, je ne spoil rien, qu'il est persuadé qu'il lui reste assez peu de temps à vivre, mais il veut, avant de quitter ce monde, construire un monde, justement. Et le monde qu'il veut construire, il s'appelle Haifa. Et Haifa, c'est cette application. Mais ils vont tous plus ou moins, et c'est là que ça devient complètement abstrait, mystérieux et très beau, très fort ce roman, c'est qu'ils vont tous en tomber complètement radingue d'Haifa. Parce que justement, c'est une application qu'ils ne connaissent pas encore, les concepteurs et conceptrices, et comme ils ne la connaissent pas encore, justement, ils veulent un peu la faire à leur image. Or, c'est jamais qu'une application. Donc ils vont se demander s'ils vont la faire pour les hommes, pour les femmes, pour les homosexuels, pour les transgenres, et c'est là que va se poser la question, et c'est là que votre roman accroche d'autres choses aussi, c'est que justement il va y avoir une vraie histoire d'amour, au moins dans ce livre, et que va se poser la question du genre, puisqu'il y a des personnages qui vont aussi, dont il va aussi se révéler qu'ils ne sont pas nés dans le corps qu'ils voulaient, et qui vont devoir changer. Voilà. C'est aussi ces questions-là dont il est question. Est-ce que vous vouliez justement parler, parce que quand on parle intelligence artificielle, on parle de choses un peu abstraites. Est-ce que vous vouliez aussi, pour être encore plus narratif, encore plus concret, choper aussi d'autres aspirations du temps, d'autres préoccupations du temps, et cette question du genre et de la liberté à être cisgenre, transgenre et à y correspondre en fait partie? Est-ce que vous vouliez aussi choper d'autres préoccupations?
C'est une bonne question. En fait, c'est...
Ça m'arrive, oui, c'est pas tout le temps, mais ça m'arrive.
Non, mais En fait, la notion qui m'intéresse dans ce roman, c'est aussi celle de transitionnalité. Que ce soit une transitionnalité entre l'humain et la machine, et à transitionner de l'humain à la machine, on finit par devenir la machine d'ailleurs, c'est à un moment une réflexion qu'il y a dans votre roman, Nathalie. Et il y a aussi la transitionnalité de l'esprit entre le code, l'équation et le langage naturel. Et il y a cette transitionnalité, effectivement, des corps. Et ce qui m'a marqué, en fait, dans l'expérience que j'ai pu faire de l'intérieur de ces conceptualisations d'applicatifs mobiles, c'est qu'il s'agit d'infrastructures invisibles, c'est-à-dire il y a des systèmes obscurs ou des systèmes invisibles à travers lesquels se métamorphose l'affectivité, se métamorphose les corps, se métamorphose les corps à corps. Et c'est aussi des lieux d'une recherche poétique. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le roman de Nathalie, c'est qu'il y a une dimension de saisir qu'est-ce qu'il y a de poétique dans un code et dans cette expérience du code qui est toujours en même temps quelque chose de physiologique et qui a à voir avec l'en-devenir du corps. Donc, sans prétendre, moi, avoir quelques propos que ce soit sur la question de la transidentité, je me suis néanmoins intéressé à ce que devenaient le corps et l'affectivité dans ces espèces de déphasages constants entre le fantasme et le rapport au réel, qui est souvent un rapport de crash, notamment dans le milieu de l'entreprise que j'ai pu côtoyer. C'est-à-dire qu'il y a des attentes énormes à l'égard de l'intelligence artificielle. Le transhumanisme, c'est un mot qu'on utilise un peu pour parler de ces fantasmes, de ces grandes attentes d'une intelligence artificielle qui serait la grande solution à tous nos problèmes, enfin. Et finalement, ces fantasmes et ces grandes envolées lyriques et émotives dans ces fantasmes-là se crachent finalement à l'atterrissage sur un rapport au réel et sur un retour du corps, justement. C'est-à-dire que, quelque part, j'avais en tête une réflexion d'Henri Gouillet dans Le théâtre et l'existence qui disait que le tragique s'articule toujours par rapport à une certaine transcendance, notamment soit historique, soit le destin. Et il m'a semblé que dans le récit qui était le mien, ce qui apparaissait comme transcendant, c'était une certaine conception du corps purement biologique et l'absurdité finalement d'une conception du corps comme étant purement biologique. C'est-à-dire qu'il y a un retour du biologique, mais qui ne résiste pas et qui en même temps bute contre ce qu'il y a au-delà du biologique. Et voilà, je pense à Merleau-Ponty qui disait que le corps humain, c'est un génie de transgression, de bifurcation par rapport au corps biologique. Donc ouais, cette question du corps et de la transitionnalité des genres comme lieu d'identité et d'imaginaire m'a pas mal intéressé, ouais.
On a affaire à deux compositions qui sont réalistes et dont le fil à tirer est clair et beau, mais on se dit, une fois qu'on a refermé ces romans, on se dit c'est quand même pas facile de mettre ce fameux truc Once Upon a Time, qui est le truc qui nous obsède tous, qui est le truc par lequel on a appris à mémoriser des histoires, on a appris à les transmettre, on a appris à les lire, sur des choses aussi abstraites et souvent inconnues que sont soit les codes, soit les applications, soit les intelligences artificielles, parce qu'on en entend tous parler. Les spécialistes connaissent ça par cœur, mais enfin, souvent, ils ou elles en parlent avec une certaine aridité, parce que c'est quand même pas la brigade du rire, comme langage, la mathématique et les choses de ces applications-là. Faire fiction universelle que nous, on peut lire, et encore une fois, c'est avec plaisir, est-ce que ce sont des choses que vous avez eu du mal? Est-ce que vous avez eu du mal à trouver les personnages, la voix, un peu comme un musicien ou une musicienne, quand il n'arrive pas à trouver le truc, il a un diapason, et puis il le cogne, et puis il trouve le hut, et hop, il démarre. Vous avez beau être des artistes, des romanciers, c'est quand même pas pareil. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver le personnage, le début du fil que vous avez tiré après? Est-ce que c'est des questions compliquées parce qu'on se base sur quelque chose qui, mine de rien, le code, l'application, même si beaucoup de gens aujourd'hui pratiquent les applications, payent pour ça, etc. Mais on n'en maîtrise pas les coulisses. Est-ce que justement, quand on écrit sur les coulisses, parce que c'est ce que vous faites, c'est compliqué de trouver le personnage, la première note, le truc?
Oui, c'est très compliqué. Et en fait, moi, ça faisait plusieurs années que je voulais écrire sur ces sujets. Non pas du tout sur l'intelligence artificielle. Hein. Moi, je l'aborde assez peu, en fait. Mais sur l'activité du code. et sur l'action de coder. Et au tout départ, en fait, je voulais écrire sur comment Google avait révolutionné notre rapport au savoir et avec la mise à disposition, etc. Et puis, je ne trouvais pas, donc j'ai écrit d'autres livres entre-temps. Et après, je me suis dit, enfin, il y a peu de temps, je me suis dit, mais en fait, je vais prendre la solution un peu de facilité, ou en tout cas d'apparente simplicité, qui est de me prendre pour cobaye, puisque moi, je ne comprends rien. Et la meilleure façon de m'adresser à mon lecteur, qui sera normalement pas très spécialiste non plus, c'est de le mettre à la même place que moi, en fait. Et donc, en commençant cet apprentissage, en décidant à mon âge, avec, encore une fois, mon profil de coder en Python, je fais une proposition à mon lecteur qui est « Viens avec moi ». Dans cette aventure qui va être certes difficile mais plutôt assez rocambolesque, et c'est comme un peu un roman picaresque, c'est-à-dire que je me prends assez peu au sérieux, il m'arrive pas mal de déboires, je ne comprends en général à peu près rien, je me dispute avec certains de mes formateurs parce que ils m'énervent, ils manquent d'affect, ils manquent d'empathie, ils m'expliquent des trucs mais ils reviennent pas à l'origine des choses. Et donc, je me prends un peu les pieds dans le tapis, très souvent même. Je me prends aussi les pieds dans mes propres affects et dans mes propres souvenirs. Mais c'est justement avec cette forme-là que je pensais pouvoir entraîner le public et le lecteur dans cette aventure pour l'amener à regarder ces choses qu'on ne voit pas. Parce que le code et le langage informatique, c'est invisible. Et pourtant, il y a une matérialité à tout ça. Et je révèle aussi cette matérialité, à la fois le corps des codeurs et leur biographie, mais aussi la matérialité qui fait que Google a des serveurs, des câbles ou toutes les autres entreprises technologiques. Et en fait, elles brûlent de la matière, elles brûlent de l'énergie. Tout ça passe par des combustibles. Et ce n'est pas du tout le cloud aérien qu'on nous fait croire. Donc, je voulais redonner à tout ça et son humanité et sa matérialité.
Et vous, Emilien de Reclen ?
En ce qui concerne la difficulté à trouver les personnages, j'aurais du mal à dire, parce que j'ai pratiqué ce milieu-là, c'est un milieu humain, ouais, et donc des histoires ont pu m'inspirer, des histoires des gens que j'ai rencontrés. Mais j'aime beaucoup ce qui vient d'être dit par Nathalie, c'est-à-dire l'idée qu'effectivement il faut rendre son humanité et sa matérialité, et donc repasser par le corps notamment, et par les épreuves du corps. C'est notamment des corps qui sont pris dans un climat d'une certaine matérialité, c'est-à-dire qu'une salle de serveur, c'est un climat. On parle beaucoup de cloud, mais l'idée qui m'a travaillé dans l'écriture de ce roman, c'est que le cloud, bon, c'est une réalité technologique, mais prendre une réalité technologique et la réduire à sa technologie, c'est manquer ce qu'elle a d'imaginaire et de fait, en tant qu'imaginaire, ce qu'elle a de corporel. Un corps, c'est pas seulement quelque chose de simple, c'est quelque chose qui est aussi disposé, notamment disposé à certaines sentiments, à certains sentiments, à certaines émotions, à certains corps à corps. Et ces dispositions-là, elles sont aussi déterminées par le type de climat. Quand on rentre dans une salle de serveur, on étouffe. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit qui est l'esprit en tant que corps, mais d'un corps qui étouffe? À quel point est-ce qu'il est encore disposé? Comment, à quel point il peut encore s'ouvrir à l'autre? Et cette question de la matérialité, de la matérialité qui chauffe, à tel point qu'on a besoin de la refroidir sous les mers, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, parce qu'à force de saturation, les corps finissent par ne plus percevoir, ou alors par percevoir différemment. Et donc, en fait, ce qui m'a guidé dans ma recherche de personnages, c'est un peu ça. C'est quel type d'expérience de saturation et quel type d'expérience de libération ou de dépliage des corps vont pouvoir jouer les unes avec les autres d'une manière qui, narrativement, allait me sembler efficace. Mais voilà, c'est...
Et puisque vos compositions respectives dévoilent les coulisses vues par vous de ces codeurs, de ces concepteurs et conceptrices-là, c'est tout bête, mais je vais pousser un peu le bouchon loin. Souvent, on se fait des codeurs, codeuses, des concepteurs ou conceptrices, l'image un peu de nerd, l'image un peu de geek, l'image de gens qui pensent qu'à ça, qui savent à peine parler un autre langage que le langage un peu des équations, des machines et tout ça. Est-ce que vous vouliez aussi vous défier vous-même à leur donner une âme? Parce que c'est le cas, parce que vous leur faites vivre des choses... ils sont pas que des pauvres nerds, que des pauvres geeks, etc. Est-ce que votre défi, c'était aussi ça, justement, de montrer qu'il n'était pas que cette image d'Épinal que les profanes peuvent se faire d'eux et elles?
Bah oui, bien sûr. Alors, parmi ces clichés, il y a des choses qui sont vraies, quand même. C'est-à-dire que le codeur type tel qu'on se le représente, qui parle peu, qui est vissé à sa machine, qui a peu de relations sociales, qui sort pas, qui a du mal avec les filles, qui reste chez lui et qui joue aussi aux jeux vidéo, etc. Il existe, et il existe beaucoup. Mais il n'empêche que c'est une humanité, un cerveau, un cœur, enfin un corps, tout ce qu'on veut. Et en plus, moi, je minimise pas du tout l'activité. Alors, il y a codeur et codeur. Il y a le codeur créatif et le codeur moins créatif. Mais dans les codeurs créatifs, il y a quand même quelques esprits géniaux qui ont changé notre monde. Donc, d'abord, je voulais un peu regarder de ce côté-là. Et puis, retracer un peu ces histoires qui sont arrivées depuis les années 80 pour montrer comment, justement, on était passé de ces adolescents enfermés chez eux qui codaient à, aujourd'hui, des empires qui gouvernent le monde. Donc, il y a du cognitif, de l'intellectuel, ensuite de l'économique, enfin, toutes sortes de dimensions qui font que c'est beaucoup plus complexe que de dire que, voilà, c'est un jeune homme avec une capuche vissé derrière un écran. Donc, évidemment, je voulais rendre hommage à cette amplitude et essayer de donner un visage... voilà, peut-être plus proche, plus affectif de ces univers au grand public qui en général ne les connaît pas ou les connaît de manière un peu rapide, et parfois un peu trop caricaturale. C'est vrai, on a l'impression que tous ces empires qui gouvernent, qui nous manipulent, etc. Au départ, c'est des jeunes gens dans leur chambre qui créent des langages et des systèmes qui vont changer le monde.
Oui, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Mais effectivement, je prends l'exemple de Martin, qui est un peu le codeur de mon roman, qui m'a beaucoup fait penser à Boris. Et effectivement, encore une fois, la technologie, c'est pas juste de la technologie. La technologie, c'est presque une médiation qui est presque parfois secondaire par rapport à ce qui se joue à travers elle et qui a trait... aux problématiques affectives et notamment la mémoire de ces codeurs. AIFA, dont on parlait, c'est-à-dire l'intelligence artificielle que veut coder mon personnage, c'est moins un chatbot, comme on dit, qu'un deathbot, c'est-à-dire un chatbot qui reproduit la personnalité ou en tout cas les comportements langagiers d'une personne disparue. C'est-à-dire que ce qui travaille mon personnage, c'est la mémoire de sa petite sœur qu'il a perdue. Donc effectivement, le développement technologique, le code, à la manière de tout langage finalement et de tout outil de signification, est travaillé par autre chose que son propre contenu. Il est travaillé par ceux dont le contenu est le signe ou le symptôme, ou en tout cas le relent, et à savoir cette vie affective, cette mémoire qu'il encine, qui revient à la manière d'une image fantôme et finalement qui se révèle dans un métavers... où on visualise aujourd'hui nos fantômes, question étant de savoir qu'est-ce que devient l'humanité, comment elle se métamorphose à partir du moment où l'autre perdu, qui est un trou d'absence, devient visualisable à la manière sous un écran. Quoi. Donc en fait, c'est ce jeu de vertige dans la visualisation de l'autre perdu qui nous renvoie finalement à voilà, comment est-ce qu'on traite et comment la technologie aujourd'hui s'empare des mythologies ou des récits qui étaient jusque-là en fait assurés ou en tout cas portés par les religions, par exemple.
Alors bon, je vais baisser un peu le niveau par rapport aux religions et aux mythologies parce qu'il m'est arrivé un truc assez singulier grâce à vous cette semaine, en préparant là, cette table ronde cette semaine. Bah, forcément, moi, j'y connaissais pas grand-chose dans les domaines qu'on est en train d'évoquer et ne serait-ce que pour vérifier ce qu'il en était de Python, parce que ouais, j'ignorais à vrai dire que c'était vraiment un vrai langage. Donc il a dû arriver quelques heures dans une journée où j'ai passé pas mal de temps à googler des tas de choses qui ont à faire à tout ça. Et puis, bah, quand on google pas mal de choses, les réseaux sociaux auxquels on est abonné, quels qu'ils soient, enregistrent tout ça. Et donc, il y a un moment, quand on y retourne, ils vous proposent pas n'importe quel extrait de film. Et donc, pour vous dire, alors, comme quoi, ça va un peu baisser de niveau, hein, le film auquel je fais référence, parce que Facebook m'a indiqué un film que j'avais pas vu, c'est pas le film du siècle, mais qui, justement, parle de nerd. C'est le film Cyprien, qui date de 2015, je peux vous le dire, parce que du coup, il me l'a passé plein de fois, avec Elise Eymoun, qui est justement un nerd, un programmateur, et qui n'y arrive pas avec les filles. Parce que l'algorithme avait bien repéré que je faisais des recherches là-dessus, et qu'il m'a proposé que ça.
Il ne vous a pas proposé le film sur Mark Zuckerberg
Non, justement, j'ai eu que droit qu'à Elise Eymoun, moi. Et donc, enfin, qu'à Cyprien, le film dont j'ai vu la bande-annonce 1000 fois, grâce à vous, merci. Mais justement, je voulais bien savoir, pendant que vous-même, vous avez fait vos recherches, parce que le travail que vous avez fait, vous, dans votre thèse, disiez-vous, l'entreprise où vous avez travaillé, vous avez fait une partie de ce que fait votre narratrice, j'imagine, Nathalie Azoulay, mais vous avez quand même bien dû vérifier des informations, pousser plus loin des recherches. Donc vous aussi, forcément, vous avez googlé des trucs. Ben non, je voudrais bien savoir ce que vous avez proposé.
150 cours de Python, plein d'écoles et de formations auxquelles j'aurais dû participer, etc. Donc ça, j'ai été bombardée pendant plusieurs mois de tout ça. À part ça,
parce que mine de rien, je me disais, c'est quand même fou parce que je fais une recherche autour de thématiques que brassent des fictions qui parlent entre autres des algorithmes, mais l'algorithme ne me présente que ça. Je voudrais bien savoir ce que vous, l'algorithme, a repéré quand vous avez justement écrit, googlé et tapé les mêmes mots sans cesse.
J'ai pas exactement souvenir de ça, mais par contre, moi je me suis servi de ChatGPT. Pour avoir en fait une compréhension minimale de ce que c'est qu'un réseau de neurones. Et en fait, je me suis fait expliquer par ChatGPT, je lui ai demandé quelle est la structure de ton fonctionnement, quoi. Et donc il m'a dit voilà, c'est telles et telles équations, et alors des équations de propagation, de gradient, de rétropropagation, etc. Et à travers lesquelles s'est construite l'image de la propagation dans le ciel, du cloud, etc. Enfin, j'ai construit mon image poétique dans cette interaction avec ça. Donc j'ai moins utilisé, Google. Je saurais pas me rappeler quels ont été.
Qu'est-ce que ça vous a apporté alors créativement? Parce que là aussi, c'est comme si vous aviez découvert une langue. Bah, je suis complètement profane en ChatGPT pour tout vous dire, mais qu'est-ce que ça ouvre comme porte? Alors, a fortiori parce que c'est votre premier roman.
Ouais. C'est difficile à dire là à ce stade. Enfin, disons qu'il y a une différence entre déléguer à ChatGPT l'écriture de quelque chose et puis se servir d'un outil comme d'un autre pour construire soi-même, être soi-même dans son processus de signification. Mais intrinsèquement, je trouve pas ça révolutionnaire, moi, dans la pratique de l'écriture. Mais ouais, je saurais pas. C'est difficile de dire où une technologie va nous emmener en fait à l'avance. Beaucoup donnent des bons et des mauvais points, beaucoup s'inquiètent, beaucoup reviennent à une espèce d'essentialisme de ce que c'est que l'écriture ou l'imagination. Bon, à partir du moment où on intègre à une pratique écrivaine tel ou tel outil, que ce soit Google ou ChatGPT, on est plus dans le tâtonnement, alors donc je ne saurais pas quels sont les apports finaux de ça. Mais en ce qui me concerne, plutôt qu'aller sur Wikipédia, j'ai demandé à ChatGPT. Et en fait, dans cette interaction-là, moi, j'en suis venu à des moments de déséquilibre, de réflexion, d'émotion, et en fait, des choses qui ont fait générer d'émotion. Des images. Oui, parce que quand on lit quelque chose, en fait, on est toujours dans un processus interprétatif. On se nourrit, en fait. Et on ne demande pas à ChatGPT de vomir du texte ou de produire du texte, parce que de toute façon, moi, en ce qui me concerne, le texte. Quand j'écris un texte, j'ai pas l'impression que l'enjeu soit d'écrire un texte. C'est plutôt ce qui se passe et dont le texte est un résultat ou dont le texte est une ouais. Et bon, bref, tout ça pour dire que ouais, j'ai moins utilisé Google finalement que.
Donc, ChatGPT aurait pu vous aider sur les quelques parties où il est question justement d'un des concepteurs qui essaye d'enseigner à un autre justement comment ce qu'il construit le programme AIFA, ce qui pour nous du coup devient concret. Et bon, on se dit quand même, le gars il est fort, il a réussi à nous rendre concret et compréhensible un truc qui à la base ne l'est pas, si ton texte se fait pour l'être d'ailleurs. Ça vous a servi à ça, mais ça ne vous a quand même pas servi à. Ça ne vous a quand même pas guidé pour raconter tous les sentiments qu'il y a par ailleurs.
C'est impossible. Dans le livre. C'est impossible d'ailleurs, la fin du roman de Nathalie. Est très intéressante là-dessus, c'est qu'on est face à quelque chose qui extrapole, qui produit du statistiquement le plus commun, quoi. Vous savez, c'est du standard et finalement c'est du gros cliché en permanence. Non, on peut pas. Et de toute façon, écrire, c'est toujours aussi. Enfin, on fait avec ses problématiques affectives et c'est difficile de déléguer à une machine le traitement de ces problématiques-là. Il y a un truc qui ressort dans la construction d'une narration, d'une intrigue, d'un personnage, etc. qu'on peut pas déléguer. Enfin, en fait, sinon c'est du suicide mental. Enfin, je veux dire, c'est un renoncement. Mais voilà. Ouais.
Vous, Nathalie Azoulay, est-ce que vous avez eu envie justement de convoquer, justement, ne serait-ce que pour vous défier, ne serait-ce que pour essayer, ne serait-ce que pour voir où est-ce que ça vous emmenait, justement, ces intelligences artificielles-là?
Ben moi, c'est un outil de travail. ChatGPT, je l'utilise très régulièrement pour toutes sortes de choses, mais comme un outil d'information. Alors déjà, son information s'arrête à 2022, mais enfin pour l'instant. Et évidemment, il ne produit pas de la littérature, il produit du texte. Il produit du texte avec, statistiquement, comme vous le disiez, du déjà connu, en fait. C'est un lecteur qui a tout lu et qui a compilé de l'information. Donc c'est très utile. Mais il faut le diriger, il faut avoir du discernement, il ne faut pas du tout se laisser dépasser par lui. Et pour l'instant, sur le plan littéraire, il est très, très dépassable. Enfin, il est très mauvais. Donc il va peut-être s'améliorer, hein, sans doute. Même, il s'améliorera et il produira des choses plus fines. Mais pour l'instant, c'est vraiment du gros standard. Il n'empêche que c'est très utile. C'est très utile pour chercher des choses, des informations, pour même articuler des idées, etc. Et évidemment que je m'en sers, mais comme on se sert d'un outil. Et quand je m'en sers, moi j'ai l'impression, ce que je dis dans mon livre, que je trahis Google parce que je rentre dans un dialogue avec une machine et que j'aime bien ce dialogue, en fait. Donc je dis, mais là tu m'as dit ça, mais en fait ça va pas. J'ai aussi pensé ou trouvé qu'il y avait ça. Et donc on dialogue. Alors c'est un dialogue limité, mais c'est quand même un dialogue, alors que Google, c'est pas du dialogue.
Est-ce que ce dialogue vous a parfois, ne serait-ce que pour dans le cadre de cette fiction-là, emmené vers des pistes que vous n'aviez pas envisagées?
Pas pour ce livre. Ça a dû m'arriver pour d'autres recherches que j'ai pu faire pour d'autres choses, mais bon, à vrai dire, il n'y a pas eu encore d'événement dans ma vie de ChatGPT. Hein, c'est-à-dire ça n'a pas suscité ni des émotions, ni des chocs, ni des trouvailles. Mais c'est un outil, donc il faut vraiment minimiser tout ça et se dire que les hommes sont aux commandes et que ça va durer comme ça pendant, j'espère, longtemps. Mais moi, je garde mon calme vis-à-vis de tout ça. Il faut savoir que quand l'imprimerie est arrivée, ça a été une révolution et le Vatican a failli l'interdire. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'il y a une grosse technologie ou technique qui surprend l'humanité, il y a une panique. Il y a une panique à bord, un effroi, une peur de disparaître, et c'est très cyclique. Donc là, il faut rester calme et continuer à s'en servir comme d'un outil.
Quand on est une écrivaine, un écrivain, donc un individu de mots, de fiction, pour ce qui vous concerne, et de mots, qu'est-ce que ça représente comme rêve, comme peur, peut-être justement ChatGPT, je pense, parce que nous autres, les journalistes, lorsque la fameuse réalité virtuelle et les caméras à 360 degrés, les casques à 360 degrés sont apparus il y a à peu près 10 ans, on s'est tous dit que le journalisme d'immersion changerait, que ça changerait peut-être la façon d'aller s'immerger dans des conflits, etc., etc. Et en fait, à ce jour, ça ne... À date, hein, ça ne l'a pas encore tant changé que ça. Est-ce que, pour aller sur la question de la langue et des mots, justement, est-ce qu'un corpus tel que ChatGPT, qui est à la fois un outil, une langue et pour certains un imaginaire, est-ce que justement vous avez peur que ça puisse changer la façon soit dont vous écrivez, soit dont on vous lit ?
Non, mais ça va forcément modifier des choses, mais encore une fois, l'imaginaire de ChatGPT, il est très pauvre. C'est notre imaginaire de lecteur dessus qui peut être riche et stimulé. Mais moi, je n'ai pas peur, en fait. Je me dis que même s'il arrive à un bon niveau d'écriture, il n'aura pas le grain de l'expérience humaine, il n'aura pas le grain des chagrins humains, il n'aura pas l'expérience. Donc, à partir du moment où on n'a pas l'expérience, on ne produit pas de littérature.
Comme votre codeur a du mal à coder Proust, par
exemple. La littérature se nourrit d'expérience. Et si on n'a pas l'expérience, même si on limite... Ben, l'imitation, c'est pas la vérité, donc il manquera toujours cette pierre-là. Après, peut-être que la technologie nous réserve des surprises et qu'il aura l'expérience un jour, mais c'est pas encore venu.
Et vous, Emilien de Reclaine ?
Oui, je suis complètement d'accord avec Nathalie, c'est-à-dire que l'option de la peur me paraît un petit peu insuffisante, au sens où il y a toujours moyen de constituer de manière phobique son objet. On peut toujours, d'ailleurs d'un point de vue éditorial, ça fait fonctionner de l'angoisse, ça fait fonctionner de la peur, bon ça marche très bien, mais je pense qu'il y a plus que cela à y chercher, et peut-être à l'aborder avec une certaine ivresse nietzschéenne, c'est-à-dire l'idée que, bah oui, il y a du létal et du vital dans toute chose, Et c'est justement là que c'est intéressant, c'est-à-dire que ce qu'on écrit, c'est aussi cette ambivalence ou cette monstruosité-là. Moi, enfin, en tant qu'auteur sur l'intelligence artificielle, je ne vais pas m'intéresser à condamner une technologie ou même si j'ai conscience de ses effets néfastes. Je ne saurais même pas dire, voilà. Mais, encore une fois, il est difficile de savoir où une technologie nous emmène. Et je suis assez d'accord que toute activité, notamment l'écriture, mais par exemple en musique, aussi, c'est pareil, on a besoin d'expérimenter avec des nouveaux outils technologiques. Moi, par exemple, je suis violoncelliste baroque, à la base. Et il fut un temps où je pensais que... il était impossible de faire un son musical rempli d'une âme autrement qu'avec un archer et des crins de chevaux frottant sur une corde en boyau. Bon, et je suis forcé de constater que quand on a des compositeurs ou des producteurs de musique qui utilisent des instruments synthétiques, là où certains crient au scandale parce qu'on perd une dimension de sensualité...
Et parce qu'on synthétise la musique.
Voilà.
C'est la différence entre... C'est toute la question des harmoniques. Hein.
Ouais. Et en même temps, ça ouvre à de nouveaux espaces créatifs, à des possibilités qui sont absolument inouïes. Et c'est pas parce qu'on fait de la musique électronique qu'on fait plus de musique baroque. Donc en fait, il y a un mélange des époques, il y a un mélange des temporalités. À chaque technologie, sa temporalité. Et nous sommes des êtres temporels. Nous sommes pas des êtres dans un présent qui est toujours au point d'effondrement entre le passé et l'avenir, comme si au jour d'aujourd'hui, ce devait être la fin du monde ou la fin de l'écriture ou la fin de l'imagination parce que telle technologie apparaît. Donc effectivement, je pense qu'il y a à embrasser cette diversité du temps et de ces temps que scellent les technologies au fur et à mesure où elles apparaissent, disparaissent. Et dans l'écriture et dans l'art, je crois aussi qu'il y a une dimension de transgression ou de piratage ou de hacking par rapport aux technologies. C'est-à-dire que quand on est écrivain, on n'utilise pas ChatGPT pour faire notre voix à notre place. On est en train de chercher, d'expérimenter, de mettre à mal, quitte à l'insulter, finalement, cette technologie, comme dans la fin de l'autre monde. Donc ouais, je crois qu'on a une relation émotionnelle et un peu pirate, un peu ivre avec cette technologie qui fait pas de mal à la créativité.
Vous prononciez le nom justement de hack, de hacking, etc. Et en introduction de cette rencontre, même si ça n'est pas directement le décorum hein, de vos fictions, c'est quand même le décorum avec lequel nous, les citoyennes et les citoyens, on lit vos fictions, parce que l'année 2024 où vos fictions paraissent, c'est l'année électorale, c'est l'année où forcément de Russie vont venir des... Et on l'a vu, hein, parce qu'on a appris officiellement cette semaine que l'affaire des puces de lit avait été gonflée par des tas de choses, de fake news qui venaient justement des hackers russes. Le gouvernement français a peur à l'occasion des élections européennes, peut-être à raison, que l'interventionnisme du dark web russe fasse des siennes comme il l'a fait en 2016 et comme probablement il le fera en 2024 dans le cadre des élections américaines. C'est quand même ça aussi, mine de rien, tout ce qui est intelligence artificielle. Là, on est du côté dark web, on est du côté hacking, on est du côté, côté extrêmement obscur de la politique, mais c'est quand même ce qui baigne l'actualité dont là, nous, en effet, qu'est-ce que les romans que vous avez écrits sur ces questions d'intelligence artificielle ou de code vous ont amené justement à penser de ces dangers-là, démocratiques, interventionnistes, parce que c'est aussi les deepfakes, c'est aussi les fake news, etc. Est-ce que vous les envisagez un tout petit peu différemment, justement, ces questions de deepfakes, fake news, choses qui arrivent à nos démocraties depuis que vous êtes plonger un peu dans l'âme de ces codes, de ces langues, de ces langages et de ces univers artificiels. Pardon, c'est un peu abstrait comme question.
Non, c'est pas abstrait, mais c'est juste que je me suis pas tellement penchée sur toutes ces questions. À vrai dire, c'est ce que disait Emilien, à savoir que la technologie, elle a une face obscure et une face claire. Et donc, voilà, il y a des merveilles qui sont permises par elle, et puis il y a des dangers qui sont créés par elle. Je ne sais pas quoi dire. Il faut se méfier, il faut des instruments de régulation, il faut former les enfants au code. Enfin, il faut donner à tout le monde tous les moyens pour maîtriser le plus possible ces techniques. Il ne faut pas se laisser dépasser par elles. Il ne faut pas qu'une petite communauté maîtrise et que le reste du monde ne maîtrise pas. Donc, autant former autant que possible les générations futures. C'est tout ce que j'ai à dire, que des banalités, pardon, mais... je ne suis pas assez spécialiste de ça.
Vous pensez qu'il faut apprendre aux enfants,
y compris aux enfants de 50 ans, c'est très important qu'ils comprennent ces outils. Ouais. Oui, bien sûr.
Ouais, je rejoins complètement Nathalie. Il y a besoin d'une culture technique. Moi, il y a un philosophe que j'aime beaucoup, c'est Gilbert Simondon, qui est un grand philosophe de la technique, et qui disait deux choses. Il nous faut une culture technique, c'est-à-dire sortir d'un schéma industriel, finalement, où les outils qui nous sont donnés, on ne les comprend pas, et donc on ne sait pas les modifier de l'intérieur pour en faire nos outils. De la même manière qu'on, voilà, qu'on confectionne quelque chose, qu'on personnalise quelque chose. Mais c'est là que le codage, finalement, et que la démarche en fait, d'apprentissage de la narratrice du roman de Nathalie est vraiment dans cette démarche d'appropriation culturelle, quelque part. Voilà. Et il disait aussi, Simondon, qu'il nous faut des poètes techniques, c'est-à-dire qu'il y a à se saisir de ces technologies comme d'espace poétique et de recherche poétique. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il y a peut-être de commun, en tout cas dans nos deux romans, c'est cette recherche-là, après, qu'on y arrive. Ouais, et donc, donc, par rapport à ces grands enjeux de l'IA, effectivement, et de manipulation de l'information, mais aussi ce qu'on appelle l'économie des attentions, etc., c'est là qu'effectivement, comprendre le milieu... La technologie, c'est comme tout, c'est un milieu de vie, en fait, et on vit d'autant mieux qu'on comprend son milieu de vie. Et là, il y a à comprendre ce milieu de vie-là, qui est technologique, qui est d'une certaine technologie. Et je crois que cette démarche-là de s'approprier, d'essayer de comprendre, est essentielle. Ouais. Pour ne pas rester dans un schéma industriel où on reçoit de manière passive des applicatifs déjà structurés et qui restructurent nos pratiques à notre insu sans qu'on puisse conscientiser comment, en fait.
Est-ce qu'il y a, mesdames, messieurs, on a encore 10 petites minutes parmi vous des questions ou des réactions. Je crois qu'on aura un micro à vous passer. Ouais. N'hésitez pas, questions ou réactions sur ce qu'on a dit, sur les romans si vous les avez lus. N'hésitez pas. J'ai avoué le niveau de mes références. Hein. Moi, c'est Cyprien, donc vous savez, vous pouvez y aller sans peur et sans reproche.
Bonsoir, merci pour votre intervention. Peut-être une question pour Nathalie Azoulay, parce que j'ai commencé à feuilleter les premières pages de votre livre. Et je me demandais, du coup, si vous avez un peu débarqué dans cet univers sans vraiment rien comprendre, le fait de vous y être frotté, d'avoir observé, d'avoir testé des choses. Est-ce que vous vous sentez toujours externe à cet univers ? Est-ce que quand vous parlez à d'autres personnes qui ont le même profil que vous, qui sont très externes à cet univers, ils sentent que vous êtes rentré dans un autre univers ? Enfin, un petit peu s'il y a eu un avant, après cette phase de confrontation au code. Et peut-être si sur plus le processus d'écriture, ça vous a amené à imaginer des nouvelles formes d'écriture qui ne soient pas juste des lettres qu'on inscrit sur du papier ou sur un document Word, mais qui puissent être plus dans l'interaction en fait, entre les lecteurs, entre l'écrivain, etc.
Je pourrais pas dire qu'il y a un avant et un après parce que c'est un tout petit peu trop fort, mais ce qui est sûr, c'est que quand j'ai compris la base de la logique informatique, alors je sais pas s'il y a des informaticiens parmi vous, ils vont trouver ça peut-être un peu rudimentaire, mais quand on comprend que tout marche par si alors sinon, on comprend que toute la logique du code, c'est d'envisager les options de la décision et les options de l'action. Et évidemment qu'après, on peut rédiger des programmes, etc., de manière très complexe, parce qu'après, ça devient très complexe. Mais ça, c'est la toute première base, en fait, de comprendre que c'est juste un arbre de décision qui est programmé par la machine et qui est envisagé par la machine et qui est écrit par le codeur. Et en fait, avant de commencer, je ne savais même pas ça. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit « Mais il faut que tu comprennes la logique de base, en fait. » Et la logique de base, c'est « si, alors, sinon ». C'est-à-dire, voilà, il y a une condition, et puis si cette condition n'est pas remplie, il y a une autre action qui se déroule. Et à partir de là, en fait, je sais que j'ai beaucoup joué à un jeu pour enfants qui s'appelle Citizen Python, et qui vous fait construire des tours et les démolir, etc. Et en fait, ça me fascinait, parce que c'était une manière de décomposer les actions comme la vie courante ne vous permet jamais de le faire. Et en fait, le code, c'est ça, c'est la décomposition analytique extrêmement poussée de chaque action. Et à partir de là, Je me suis dit, bon, évidemment, je ne vais pas devenir codeuse, évidemment, je ne vais pas aller au-delà de ça, mais j'ai déjà compris ça, et c'est énorme. Et je ne sais pas, j'étais un petit peu rassurée. Je me suis calmée sur l'éventuelle inquiétude que je pouvais avoir, sur même la fascination que j'avais. Donc, ça a tout calmé, en fait, et c'est bien de calmer le jeu, parce qu'on réfléchit mieux, en fait. Et donc, je crois que c'est ça, surtout, que j'ai découvert en mettant un pied dans cet univers. Après, il y a toute l'observation et tout l'imaginaire que ça m'a renvoyé. Et évidemment, à partir de là, moi, j'ai brodé, j'ai imaginé des choses que je ne voyais pas devant moi, mais qui étaient vraiment que dans mon esprit et dans mon passé, dans ma mémoire. Mais après, ça, c'est le travail de la littérature et c'est le travail de l'écrivain qui se met en place. Mais pour répondre à votre question, s'il y a un avant et un après, il se situe vraiment là, dans cette compréhension rudimentaire de la logique de base.
Bonsoir. Alors moi, je voudrais vous remercier parce que je suis un écrivain amateur, totalement amateur, et je travaille beaucoup avec ChatGPT. Et effectivement, vous avez utilisé le mot de partenaire, et c'est un peu ce que je fais avec ChatGPT, et mon entourage me prend un peu pour un fou quand même, parce que j'instaure une vraie relation, en fait, avec ChatGPT. Alors moi, je suis un boomer, donc il y a des choses qui m'échappent totalement. Donc je continue à lui parler comme si c'était une personne, en fait. C'est-à-dire que j'y mets des formules de politesse pour discuter. Et au fil de l'eau, dans ce travail, c'est vraiment, et j'ai vraiment apprécié ce que vous avez dit, c'est vraiment un partenaire de travail. C'est-à-dire que ça permet d'aller explorer des choses, des compétences qu'on n'a pas, mais quelque part, et vous l'avez dit tous les deux, ça ne remplacera jamais l'imaginaire. Et effectivement, moi je prends ça comme un outil aujourd'hui fabuleux qui a dépassé totalement ce que pouvait être Google ou Wikipédia, parce qu'effectivement il y a cette vraie relation de travail et ça permet vraiment de pouvoir échanger des points de vue, de pouvoir travailler sur la construction des choses et de pouvoir remettre en question certains aspects qu'on pouvait élaborer.
Merci. Moi, j'ai envie de vous répondre que moi, c'est le contraire. C'est-à-dire, j'y mets pas du tout les formes et je lui parle très, très mal. Et en fait, je crois que c'est très, très jubilatoire d'une certaine manière parce que c'est comme un exutoire où on ne mettrait plus du tout les formes pour demander quelque chose à quelqu'un. Et comme il se fâche pas, parce qu'il est infâchable, on peut vraiment abuser et surabuser de la chose et c'est pas mal aussi. Et j'ai parlé avec un psychiatre qui m'a dit qu'il avait des patients qui appelaient ChatGPT mon chat. Et que c'était devenu des partenaires à part entière et que ça avait comblé leur solitude. Et lui, il dit, bah, finalement, ça a aussi cette vertu-là. Donc, vous voyez, on n'est pas au-devant de nos surprises. On n'est pas à la fin de nos surprises.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il appelle ça une vertu, mais... Autre question ou réaction ?
Je pense que la question s'adresse plutôt à Nathalie Azoulay, mais enfin, c'est une question tout simple, toute bête, mais vous parliez de jeune homme à capuche, geek, enfin, est-ce que ce serait un univers vraiment masculin ? Et, enfin, bon, est-ce que ça veut dire que ce patriarcat, comment dire, dont il est beaucoup question en ce moment, serait aux prises ? Enfin, voilà, je vous laisse terminer ma question. Enfin, vous devez sentir un peu vers où elle mène.
Alors, mon roman parle beaucoup de ça. Et il retrace l'histoire, en fait, des hommes au sens des garçons et des machines, et de l'informatique en particulier. C'est-à-dire que il y a des explications à ça. Dans les années 40, il y avait des femmes qui s'occupaient beaucoup de code et d'informatique. Et puis, au fur et à mesure que l'ordinateur est devenu petit, c'est-à-dire personnel, et qu'on pouvait le mettre dans une maison, il y a eu énormément de constructeurs qui se sont emparés du marché, et les enjeux financiers sont devenus énormes. Et à partir de ce moment-là, les femmes se sont un peu vues, repoussées, je ne sais pas, mais en tout cas, elles ont disparu du champ. Et c'est devenu une industrie très masculine. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans les écoles de code, il y a un tout petit tiers de filles, et c'est très encouragé par les écoles, mais c'est quand même très, très minoritaire. Mais il y a des raisons à ça, c'est-à-dire que c'est très difficile d'aller dans un monde où il y a beaucoup de garçons quand on est une fille. À moins d'épouser leur code. Et c'est vrai que quand vous allez dans ces écoles de code, les filles, bon, il y a quelques filles féminines, mais il y a aussi des filles très masculines qui se fondent un peu dans la masse. Et donc, je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne sais pas si c'est du patriarcat. Moi, j'ai du mal à employer ce mot aussi massivement. Je pense que c'est une histoire, une sociologie, qui font que les garçons ont occupé ce monde, parce que quand l'ordinateur est arrivé à la maison, c'est les années 80, ça, il a été mis dans les chambres des garçons et sur les bureaux des garçons. Les pères et les fils se sont mis à s'occuper des machines ensemble. Et c'est vrai que les filles ont été très peu invitées à le faire. Mais il y a aussi que dans l'éducation des filles, la machine, c'est le non-contact, c'est la non-attention, c'est le non-autrui. Enfin, voilà, c'est tout ce qu'on dit à une fille, à savoir, il faut t'occuper des autres. Donc, c'est vrai que tout ça a une histoire, a des constantes, mais il y a aussi des cycles, c'est-à-dire il y a des moments dans l'histoire où les filles se sont occupées de ces machines. Donc peut-être ça va revenir, peut-être pas, mais pour ça, il faudrait que les filles fassent des sciences, et les filles ne font pas beaucoup de sciences. Donc, vous voyez, c'est pas que la faute du patriarcat, c'est que les filles elles-mêmes n'y vont pas. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Non, mais c'est les filles toutes seules qui sont encouragées parfois à faire des sciences, qui, par peur d'être les seules ou par peur de ne pas y arriver, donc par autocensure ou par ce qu'on leur a dit depuis l'école primaire que les maths c'était pour les garçons, résultat des courses, et c'est de plus en plus catastrophique, les filles ne font plus de maths en terminale et donc ne font plus de sciences après leurs études secondaires. Et si ça reste comme ça, elles ne feront jamais de technologie non plus. Et donc, on pourra se plaindre sur le fait qu'il n'y a que des garçons qui codent et qui créent des empires technologiques. Mais il y a des raisons à ça. Et donc, il faut s'occuper de ce qui est en amont, à savoir l'éducation des filles, très tôt, pour qu'on y remédie. Mais il faut aussi redorer le blason de tout ça, dire qu'il y a des créations à faire, qu'il faut être créatif, enfin que voilà, c'est une activité humaine qui peut être aussi intéressante que la littérature ou la peinture ou autre chose. Mais c'est du travail d'éducation. Vous participez. Mais parce que je pense que le féminisme a un angle mort, et c'est l'éducation des filles, et c'est le rapport aux sciences. Et il faut arrêter de crier sur tous les toits qu'on n'a pas notre place dans certains endroits. C'est parce qu'on n'y va pas non plus, donc il faut y aller. Mais c'est vrai qu'il y a du travail d'éducation, donc ça veut dire qu'il faut revenir sur des comportements anciens, une histoire, des habitudes, et c'est du travail, et c'est du boulot, et ça va prendre du temps.
Une dernière question, réaction.
Oui, bonsoir, merci beaucoup. En fait, vous venez d'associer aussi les mathématiques comme un indispensable à l'apprentissage du code. Et en l'occurrence, il y a quand même beaucoup de gens qui se mettent à coder et qui sont plutôt des littéraires et des linguistes. Et en tant que linguistes, en fait, ils apprennent du coup un langage. Ma question, c'était pour vous, dans votre apprentissage, à quel moment vous avez... ressenti le manque de capacité mathématique. Enfin, je veux dire, est-ce que dans votre apprentissage, vous vous êtes dit, je suis une littéraire, je vais apprendre que, basiquement, enfin, c'est que...
Mais j'ai pas eu le temps, en fait, de m'en rendre compte, parce que je suis pas allée très loin dans mes apprentissages. Ce que j'ai appris au début, j'ai pu le comprendre, parce que je pense que c'est à la portée d'un esprit à peu près clair et logique. Donc... c'est vrai que les mathématiques prédominent parce que ça vous exerce à une certaine logique analytique, mais la linguistique aussi, donc ça ne m'étonne pas ce que vous dites en fait. Donc je pense qu'il y a plusieurs voies d'accès, mais la voie prioritaire ou majoritaire pour l'instant, c'est quand même la formation mathématique et informatique qui est très nourrie de mathématiques. Mais peut-être qu'il faut diversifier ça, mais je pense que quand même il faut avoir une espèce de structure logique assez solide pour commencer à coder. Mais il y a des écoles comme l'école 42 où on ne demande pas aux gens d'avoir des diplômes en maths. Hein. Ils arrivent, ils n'ont pas de diplôme, mais ils ont cette logique parce qu'ils s'y sont formés tout seuls qui leur permet de coder et d'en faire leur métier.
Avant de complètement conclure, je voulais vous solliciter aussi, Emilia de Reugen, vous avez sûrement vous un avis, une opinion, voire sur la question par rapport au patriarcat, féminisme, etc. Parce qu'il y a... Oui. Pas de raison que la question ne vous soit pas posée non plus à vous.
Oui, effectivement, ce que m'inspire cette question-là, c'est... Enfin, ça renvoie à un constat que j'ai fait de l'intérieur, c'est qu'effectivement, ces technologies-là concrétisent des idéologies. C'est-à-dire que il y a le code et le paysage dont on choisit. Et ces paysages-là s'élaborent au sein d'institutions, de contextes, de conceptualisation qui sont pétris de valeurs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de resituer historiquement cette technologie de l'intelligence artificielle par rapport au système de valeurs qui sont intrinsèques à son émergence comme technologie. Je veux dire par là que c'est une techno. Qu'on parle d'intelligence artificielle, mais pourquoi parler d'intelligence ? En fait, l'intelligence, est-ce que ce n'est que du calcul ? Est-ce que ce n'est qu'un instrument de computation et de prise de décision pour voilà, des décisions qui elles-mêmes n'ont de finalité que de produire du chiffre ou de produire de produire. Et en fait, cette technologie-là, elle est ce que Derrida aurait appelé logo-phallo-centré. Et on a effectivement affaire à une technologie qui est centrée sur le langage et qui fonctionne comme un langage, comme si la pensée n'était que du langage. Absolument pas. La pensée précède le langage. Le langage n'est jamais qu'une expression, parmi d'autres, d'une pensée qui renvoie notamment au corps, notamment à l'expérience du corps, à l'émotivité, à l'affectivité, à l'inscription dans des situations relationnelles, pratiques, dans des mémoires, etc. Enfin, je veux dire par là que cette conception de l'intelligence comme étant réductible au calcul et un instrument d'analyse et de prise de décision, c'est une certaine conception de l'esprit qui correspond à une certaine contexte historique et idéologique de conception. Et donc effectivement, il y a à approcher de manière féministe ces technologies, et je crois qu'en ce sens, la recherche poétique et aussi la manière de transgresser ces technologies pour les inscrire dans une pratique poétique, peut-être, est un moyen d'y penser. Ouais,
Et ben c'est sur cette notion de pratique poétique, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de plus chouette pour refermer une parenthèse sur la thématique que nous avons donc abordée pendant une heure. Si vous avez d'autres questions ou réactions, de toute façon, l'autrice et l'auteur sont à votre, je me permets de dire, à votre disposition, puisque vous allez dédicacer dans la foulée, hein, ou sortir à droite, je crois, de cette, c'est bien ça, ou sortir à droite de cette pièce. Je voulais remercier également toutes les personnes grâce à qui nous avons pu être entendus, et c'est également des personnes qui se sont exprimées dans une langue qu'on dit muette, puisque vous vous êtes aperçu que cette table ronde a été signée, c'est comme ça qu'on dit pour ce qui est de traduite en langue des signes, cette rencontre a été signée, et je voulais remercier les deux personnes qui ont signé ces propos, parfois peut-être abstraits, donc c'est peut-être pas évident, mais en tout cas merci, parce que c'est grâce à vous aussi qu'on a pu faire universalité. Il n'y a pas de littérature s'il n'y a pas d'universalité. Le régisseur, le réalisateur et les personnes qui ont organisé cette rencontre, comme le partenariat avec Lire Magazine, en vertu duquel j'ai pu avoir le plaisir d'animer cette rencontre. Merci à tous et tous, bonne suite de festival et bon week-end.